Dimanche dernier, nous fêtions la croix glorieuse, donc cette croix se dressait, nous la regardions, pour bien voir derrière le scandale, au-delà des apparences humaines, la gloire de Dieu, son rayonnement, le rayonnement de son amour, à travers le don du Père éternel qui a envoyé son Fils unique dans le monde, pour que, comme a dit la seconde lecture, tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu donne son Fils pour ça. Et le Fils lui-même, pour tous, s'est donné lui-même en rançon. Cet immense amour appelait la réponse de notre cœur. Nous regardions la croix, nous laissant aimer, pour élargir notre cœur, pour aimer en retour. La croix appelle un élan de notre cœur, mais aussi un effort de notre tête, un acte d'intelligence et donc de foi, car la foi est un alliage de notre volonté et de notre intelligence. À ce titre, les musulmans touchés par le Christ sont marquants, car si leur cœur reçoit mystérieusement très souvent l'amour de Jésus, oui, leur tête finit par buter sur le scandale de la croix. Ils n'arrivent pas à le croire. Ils ne parviennent pas à croire que ce pauvre nu qui se meurt sur la croix, c'est Dieu. Dieu qui se donne lui-même en rançon pour nous enrichir par sa pauvreté. Comme beaucoup de la richesse, ils en veulent, mais sonnante et trébuchante. La beauté doit être éclatante, la puissance écrasante, la force invincible, le plaisir illimité. C'est si directement consolant, sécurisant, puissant. Ça facilite si souvent ma vie d'avoir un porte-monnaie bien garni. Ça m'apporte un tel confort, une telle liberté. On a beau dire, mais ça sauve ma peau même. Pas besoin d'autre sauveur. Surtout si la solution du sauveur, mettons de Jésus, prend plus de temps, demande plus d'efforts, fait prendre plus de risques. C'est un peu l'expérience du scoutisme d'ailleurs. On se demande parfois pourquoi coucher sous la tente, marcher à pied, faire un feu. Ce serait tellement plus facile d'habiter sa maison, d'avoir une gazinière et une voiture. Pourquoi s'en priver ? Alors que saint Paul dit bien à Timothée dans sa première épître qu'il faut lire, « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien n'est à rejeter. » Donc même l'or et l'argent, entre nous soit dit. Si on le prend dans l'action de grâce, la phrase ne s'arrêtait pas là. Tout ce que Dieu a créé est bon, rien n'est à rejeter si on le prend dans l'action de grâce, en disant « Merci, Jésus ». Oui, certes, tout ce que Dieu a créé est bon, mais Paul invite à le prendre dans l'action de grâce en le rapportant à Dieu comme si on l'avait reçu de lui. Paul nous dit bien de mettre Dieu à la première place, le bien créé et tout bien créé à la seconde, en dépendance de Dieu qui l'a donné, sans cette précaution, de l'action de grâce, de la prière qui aère notre cœur, tout ce que nous avons gagné pourrit dans notre cœur. Tout ce que nous avons gagné, même le camp, même le concours cuisine, même les meilleures choses. Car depuis Adam, il y a dans notre cœur un venin, le piège de la cupidité. Saint Paul aux Colossiens dit que c'est une soif de posséder qui est une idolâtrie. Il y a donc bien un choix à faire pour la première place dans notre cœur, celle proposée à la fin de l'Évangile, Dieu ou l'argent. Pas de place pour deux maîtres, ou le vivant ou l'idole. L'argent est l'archétype de l'idole, car il peut y avoir tant de caractéristiques de Dieu. Prenons un chant de prière et transformons-le en l'argent. On peut mettre notre confiance, faire de lui seul notre espérance et notre soutien, de sorte que sans lui, je ne puisse rien craindre, que je finisse par dire « Oh, insidieusement, doucement, j'ai foi en toi, mon or très pur. » Paul décrit assez bien à Timothée les travers de la cupidité, car il ne voyait dans la religion qu'une source de profit. Alors il dit « Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. » Si on veut l'illustrer, si vous voulez, les gens qui veulent s'enrichir ressemblent à ces petits-enfants qui accompagnent leur maman au supermarché et qui pensent pouvoir tout obtenir. La grosse peluche qui remplirait la moitié de la chambre et la bouteille de whisky parce qu'il y a des jolis dessins. Ils suivent des désirs absurdes et dangereux. Heureusement qu'ils ont une maman. Ils sont si petits, mais ils ont des désirs déjà si démesurés, si grands. Que dire de nous? Si les parents les écoutaient, ils iraient à leur ruine, à la ruine de la famille, à la perdition aussi de leur bambin, qui n'aurait pas ce dont il a besoin pour vivre. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Et il continue. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi, loin de la foi, et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. L'amour de l'argent est derrière une question de foi, de foi. Ça devrait nous faire trembler. L'amour de l'argent les a égarés loin de la foi, loin du Christ et loin de Dieu, seul capable de nous enrichir véritablement, en vérité. Le venin de l'avarice, cette soif de posséder, demande donc de notre part un examen de conscience, car c'est notre foi qui en dépend. Que faire? Remets-toi face à la croix, face à celui qui s'est dépouillé de tout. Quand on est au scoutisme, on se dépouille de sa maison, de sa gazinière, de sa voiture. On garde beaucoup de choses encore. Dans le sommet de l'amour que le Christ nous montre sur la croix, il a tout abandonné. Mets-toi face à la croix, à celui qui t'aime, sans fard, sans maquillage, sans artifice. Laisse-toi rassasier par la richesse infinie de cet amour qui étanchera toute tes soifs, tous tes désirs. Face à lui, écoute. Écoute comme Israël, entends la voix du Seigneur, sa parole. Entends cet appel à ne pas se laisser remettre en esclavage par l'argent et sa facilité. Mène le bon combat de la foi, comme dit saint Paul à Timothée pour conclure son épître. Mène le bon combat de la foi. Tu as pour cela Jésus. Jésus parle. Il a parlé. Ses paroles sont consignées dans l'Évangile. Elles prennent toutes leurs dimensions quand on les met en rapport avec toute la Bible. On a confiance dans cette parole, car une chaîne ininterrompue de chrétiens qui ont eu la foi ont fait confiance à Dieu. On fait confiance au Christ, et on peut s'appuyer sur les plus proches, peut-être nos parents, peut-être nos amis qui croient et témoignent. que Jésus veut notre vrai bonheur. De tous ceux qui ont mis leur confiance d'abord en Dieu et qui en ont été libérés, sauvés, sanctifiés. Avance dans la confiance en suivant ce bon maître, ô maître exigeant, il est vrai, qui conduit par une voie resserrée au vrai bonheur, c'est vrai. Note qu'il ne t'interdit pas de te faire des amis avec le malhonnête argent. C'était le début de l'Évangile. Pour autant que ce malhonnête argent reste ton serviteur et ne devienne jamais ton maître, crains, s'il devient ton maître, de devenir insidieusement celui qui, dans la première lecture, écrase le pauvre et qui, par la suite, va broyer le Christ à la croix.